Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir, Babette.
Émilie, votre choix de l'actualité du jour.
Les en même temps d'Arnaud Montebourg, il veut la fin du pétrole et en même temps diminuer la taxe carbone, il veut du nucléaire et en même temps des éoliennes. On lui demandera comment il compte aller vers la transition écologique.
Mohamed, votre story du jour.
Le président brésilien Jair Bolsonaro censuré par YouTube. Les explications ce soir en exclusivité de la directrice générale de YouTube.
Mathieu, dans votre 5 sur 5 de retour, Mathieu.
Je voudrais commencer par m'excuser pour mon absence d'hier, mais j'ai une très bonne excuse. Je testais pour vous la semaine de 32 heures. Figurez-vous qu'il y a une entreprise à Lyon qui a passé.
Par la direction.
Une entreprise lyonnaise a passé ses 800 salariés aux 32 heures. On vous explique comment ça marche, ce qui marche et ce qui marche moins.
Bon début de semaine à vous, cher Mathieu. Pierre, dans votre œil ce soir.
Mon coup de cœur pour le nouveau film de Xavier Beauvois, L'Albatros, avec Jérémy Régnier et un jeune acteur qui promet.
Patrick, votre édito du jour.
Je vais vous parler de la voiture la plus vendue en Europe en septembre. Elle est... marche pas à l'essence et elle n'est pas européenne.
Merci beaucoup. Autant de sujets que l'on soumet à nos invités. Le candidat à l'élection présidentielle Arnaud Montebourg, le jeune Victor Belmondo et le chef étoilé Philippe Etchebest. Pas de quoi impressionner Julie Chex, chef du restaurant Le Benvenguto au Beaux-de-Provence. Même pas peur, chère Julie, de Philippe
Absolument
Etchebest.
Pas.
Il terrorise tout le monde, sauf vous, et tout vous avez fait. Bien raison au menu ce soir.
Une assiette de légumes frits accompagnée d'une vinaigrette à la pomme, mais attention, pas n'importe quelle pomme, ce sera la pomme du Limousin AOP, la seule pomme de France à être labellisée.
C'est une pomme de France, made in France, ça plaira forcément à notre invité. Juste un petit mot ce soir pour souhaiter la bienvenue à Alma, c'est une adorable petite fille qui aura une semaine demain. Sa maman s'appelle Aurélie, c'est l'un des piliers de la rédaction de C'est à vous. On est donc fiers et heureux d'agrandir la famille, on les embrasse toutes les deux et Hicham, le papa. Voilà pour ce point carnet rose, ce petit journal des bonnes nouvelles, fermez la parenthèse. Sans transition, un meeting, parfois ça peut être simple comme Montebourg. Une affiche géante montée-démontée en 3 minutes chrono, une enceinte portative à roulettes, dimension valise-cabine, un parking de centre commercial et roulée jeunesse. C'est parti pour 30 minutes de campagne présidentielle devant la caméra pour C'est à vous de Louis Amar.
C'est le moment des selfies, messieurs dames. Je suis pas comme Macron, je fais pas payer les selfies.
Elle est bien cette photo, regarde le nom.
Viens là.
Non.
Ah mais vous êtes allé à la librairie ou quoi? Votre prénom?
Malika.
Ah Malika, c'est le prénom de ma belle-mère, Valérie.
Et je vous remercie pour votre franc-parler.
Bon, moi j'y vais. Moi j'y vais direct. Hein.
Si monsieur Hollande avait eu un peu de jugeote, je ne vais pas porter trop de jugement sur lui, il ne le mérite pas. Et il a déjà bien de la chance que je prononce son nom ce soir.
Vous étiez venu faire vos courses ou écouter Arnaud Montebourg?
Non, c'était prévu.
Faire nos courses. Voilà. Vous vous êtes arrêté en l'écoutant?
Mais oui.
Vous êtes là par hasard?
Non.
Vous êtes un supporter d'Arnaud Montebourg?
Ouais, on peut dire ça. Ouais.
Très bonne question. Votre prénom c'est?
Gilbert.
Bravo Gilbert. Votre... Non, mais on n'est pas à la télé. Hein.
C'est des questions qui montrent que les Français sont très intelligents. On a besoin d'un cerveau collectif. Je voudrais qu'on réunisse cette équipe de France du cerveau collectif pour changer la France.
Une équipe de France dont il veut être le capitaine avec un cri de guerre.
La remontada de la France en 5 ans, 2022-2027. Il y a une remontada, si vous me permettez cette expression.
C'est votre slogan, vous pouvez.
C'est
votre
slogan. C'est pas un slogan, c'est un projet.
La remontada.fr, la remontada du Made in France taille XXL.
Tout le monde voudrait avoir un petit bout. De mon projet de remontada. Mais il ne voudrait pas que la remontada triomphe. Vive la remontada de la France! Vive la République! Et vive la France!
La remontada, c'est plus qu'un slogan de campagne, c'est le projet du candidat à l'élection présidentielle, Arnaud Montebourg, qui est ce soir notre invité. Bonsoir Arnaud Montebourg, bienvenue sur le plateau de C'est à vous.
Bienvenue.
Avec toute l'équipe, vous en faites beaucoup de ces meetings flash. Vous arrivez, tout est monté en 3 minutes chrono avec votre petite valisette à roulettes, l'enceinte portative.
Une ou deux fois par semaine dans les petites villes, les territoires un peu oubliés.
Je suis un enfant de la France rurale et j'ai contracté quelques habitudes, les sous-préfectures, les petites villes. Et surtout, ça ne m'intéresse pas de parler devant des gens convaincus. Ce qui est intéressant, c'est les gens de passage, les passants qui font leurs cours. J'étais à Falaise, dans le Calvados, la ville natale de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. 250 personnes à la sortie du marché et on voit les questions. Alors, les retraites, les salaires, le Made in France, comment on remonte le pays. Il y a une préoccupation patriotique. Les gens cherchent des solutions. Et c'est pour
ils
ça
pensent que vous en êtes, que vous êtes la solution.
Ben, ils écoutent, ils réfléchissent. C'est pour ça que je parle de cerveau collectif, parce que nous pouvons faire des choses extraordinaires en France, ensemble, si on veut bien. Si on veut éviter les affrontements inutiles et construire des solutions intelligentes. Il y en a dans les entreprises, les collectivités locales, dans les associations. On peut faire des choses extraordinaires. Il faut arriver à trouver le moyen de se rassembler. L'élection présidentielle, c'est le moment où on cherche les solutions. Et les Français, en ce moment, ils ne sont pas à dire « je vais voter pour un tel ou un tel ». Ils en sont à écouter les projets. C'est pour ça que je merci de votre invitation. Ça me donne l'occasion d'expliquer le projet. Et alors, quand je vais, par exemple, dans le Calvados, là, je vais à Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire, pas loin de Chartres, entre Paris et Chartres, eh bien, je parle à la presse locale, les journalistes locaux m'interrogent, la population vient écouter les forums improvisés. Et finalement, c'est la démocratie où on se met... Finalement, au même niveau que... Non, mais on est au même niveau que les citoyens. Le souverain, ce sont les Français.
C'est la troisième fois que vous vous présentez à l'élection présidentielle. Les deux premières fois, c'était au sein des primaires du Parti
socialiste. C'est donc la première fois. Devant le suffrage universel.
Devant le suffrage universel. Mais vous étiez candidat à la primaire, donc potentiellement à la présidentielle. Là, cette fois, vous vous lancez en solo avec ce slogan, la remontada. La France qui revient dans la course, qui impose son made in France, que vous espérez XXL. Ce qui ne sera pas simple à mettre en place. La preuve encore aujourd'hui avec cette nouvelle dans le secteur automobile, c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Événement dans le monde automobile, la voiture la plus vendue en Europe le mois dernier est une Tesla.
La Tesla Model 3, une voiture 100% électrique et une voiture américaine, ce qui ne s'était jamais produit. C'est une double première pour un podium mensuel des voitures les plus vendues en Europe, toutes catégories confondues, et personne ne pensait que cette bascule électrique se produirait aussi vite. Avec un peu plus de 24 000 exemplaires écoulés, ce Model 3 réussit à doubler la Renault Clio et la Dacia Sandero dans un marché certes déprimé par la pénurie de composants électroniques, avec des constructeurs qui n'arrivent plus à produire et à livrer. La firme d'Elon Musk continue d'accélérer grâce à une organisation verticale, des partenariats très étroits avec ses fournisseurs et grâce à ses stocks, là où ses concurrents fonctionnent à flux tendu. Pendant ce temps, la Renault Zoé, qui fut la voiture électrique la plus vendue l'an dernier, voit ses ventes décliner. Renault qui espère se relancer en 2024, année de lancement de 7 nouveaux modèles purement électriques, dont une nouvelle R5 avec des moteurs, eux aussi, made in France.
En attendant, le succès industriel et financier de Tesla est sans précédent.
Oui, c'est complètement inédit après des années de pertes et de moqueries de ses concurrents. Quand les constructeurs du monde entier tentaient d'imaginer la voiture électrique de demain, populaire et bon marché, Tesla misait au contraire sur le haut de gamme, une voiture futuriste bourrée d'électronique et de calculateurs, rien en dessous de 40 000 euros, c'est le prix de la Model 3 en France, mais Tesla en vend aujourd'hui dans le monde une toutes les 3 minutes. Hier encore, Hertz, le géant de la location de voitures, a annoncé une commande record de 100 000 Tesla pour verdir son parc automobile, ce qui a suscité la frénésie des investisseurs à Wall Street. Le titre Tesla a bondi de 13%, la capitalisation boursière de la firme est passée au-dessus des 1 000 milliards de dollars, davantage que Facebook, 4 fois plus que Toyota, 100 fois plus que Renault. Et Elon Musk est devenu l'homme le plus riche du monde en gagnant virtuellement d'un coup 36 milliards.
Est-ce qu'on peut dire que Tesla incarne l'avenir électrique automobile et celui d'un capitalisme qui passe au vert ?
Alors si vous pensez que vous allez sauver la planète en roulant en Tesla, la réponse est non. D'abord parce que la Tesla que vous pourrez acheter demain arrivera du bout du monde, soit du port de San Francisco si elle a été assemblée dans l'usine Tesla de Californie, soit du port de Shanghai pour celles fabriquées en Chine avant leur débarquement à Zeebrugge en Belgique. Il y a bien une usine Tesla en construction en Allemagne, à Berlin, mais ça ne changera pas le processus de fabrication très gourmand en énergie, comme pour tous les véhicules électriques, à cause de la batterie, de ses cellules, des métaux rares qu'il faut extraire, lithium, cobalt, nickel, ce qui fait qu'avant même de parcourir le premier kilomètre, votre voiture électrique toute neuve aura déjà brûlé 8 tonnes de CO2 contre un peu plus de 5 pour un véhicule thermique. Alors un bilan carbone, ce bilan carbone va s'équilibrer naturellement en roulant, mais il faudra au moins 20 000 km à condition que l'électricité soit propre. Si vous roulez en Allemagne ou en Pologne avec de l'électricité produite par des centrales à charbon, eh ben vous n'aurez pas fini de faire des kilomètres avant de passer au vert et d'afficher un bon bilan carbone.
C'est QFD.
C'est-à-dire c'est un succès qui n'est pas français.
Ah ben ça,
alors CQFD quoi?
Le CQFD, c'est qu'on a encore beaucoup de travail pour se débarrasser du pétrole. Voilà. Puisque notre problème, c'est comment on se débarrasse du pétrole. Ça nous coûte 45 milliards d'euros par an. Mm-hmm. C'est notre facture pétrolière. Et donc, il va falloir remplacer 11 millions de chaudières à gaz et à mazout chez les particuliers, les fours industriels dans toute l'industrie, qui sont généralement avec des fossiles, et puis 40 millions de véhicules thermiques, de moteurs à explosion, qu'il va falloir remplacer par les véhicules électriques. Donc c'est ça l'horizon de la décarbonation de l'économie. C'est un changement considérable avec des investissements massifs de substitution.
Qui ne se font pas en un jour, hein. Ni même en 5 ans, ni même en un quinquennat.
Dans mon projet de remontada, écologique aussi, parce c'est qu'il plus. A un volet central sur l'écologie, évidemment, c'est en 20 ans. Mais 20 ans pour se débarrasser du pétrole qui est partout dans nos vies, parce que... Il faut aussi parler de la construction, le béton qu'on va remplacer par du bois.
Et la vie
tout est à construire. Tout est à construire. Les plastiques remplacés par du papier, du carton. Enfin, tout est à construire.
En revanche,
et on n'a rien fait.
Vous gardez les centrales nucléaires.
Ah ben, ma position est une position pragmatique. C'est que si on se débarrasse du pétrole, on est obligé de remplacer tout ce dont on va se débarrasser par de l'énergie décarbonée, pas forcément propre. Le nucléaire n'est pas une énergie propre, mais c'est une énergie qui a le mérite d'être décarbonée. Donc c'est le couple énergie renouvelable et énergie nucléaire qui nous permettra de le faire. Sinon, on n'y arrivera pas. Regardez les Allemands.
Les éoliennes, il y en a...
Les éoliennes, tant qu'on peut en installer, mais il y a un moment, l'acceptabilité de la société va se tarir. Vous avez aujourd'hui des mouvements, y compris d'écologistes, qui refusent les éoliennes.
Cas, ouais.
Et nous avons fait un calcul avec mon équipe d'ingénieurs. Si nous remplaçons tout le pétrole par des éoliennes, il faudrait 37 000 éoliennes. Mmh. Et j'ajoute que ça n'est pas pilotable, parce que le vent ne souffle, ne donne une rentabilité que de 16% de l'engin que vous voyez là. C'est-à-dire qu'en fait, vous installez 100 mégawatts, mais vous n'avez que 16 mégawatts qui fonctionnent.
Et pourtant, vous y aviez cru très fort, puisque vous avez présidé une société d'éoliennes, les arbres à vent.
Elle a fait faillite, je n'en étais pas le créateur, ni le dirigeant, mais elle a fait faillite, j'ai perdu un peu d'argent, mes économies.
Pourquoi elle a fait faillite ?
Parce que ça n'était pas rentable suffisamment pour pouvoir dégager une rentabilité.
Mais alors, vous faites comment alors pour mettre fin au pétrole ? C'est un équilibre entre l'éolien, le nucléaire, vous gardez tout ?
Eh bien, nous allons devoir, et ça a des conséquences sur la vision qu'on peut avoir de l'intervention de l'État, du niveau de remplacement de la dette Covid. On va avoir besoin de s'endetter pour investir, et investir dans la substitution de tous ces nouveaux engins, n'est-ce pas ? Donc investir dans le nucléaire, investir dans l'éolien, investir y compris offshore, dans les hydroliennes, de l'énergie marée motrice. Ce sont des investissements considérables et on n'a pas le piètre sou pour le faire. Donc c'est ça l'enjeu européen. Donc la fiscalité écologique est le mantra de l'écologie, j'allais dire, du Green Deal européen, c'est-à-dire une taxe à chaque page des projets européens, ça ne marche pas. Parce que c'est d'ailleurs tout le désaccord que j'ai avec les écologistes.
Et l'ISF climatique ?
La fiscalité écologique, c'est très intéressant, parce que c'est la taxe carbone, y compris sur le carburant. Mmh. Vous avez une candidate écologique, Mme Rousseau, qui soutient maintenant M. Jadot, il faut augmenter le prix de l'essence. Mmh. Donc on va tous finir gilets jaunes avec une stratégie de fiscalité de cette nature.
Je ne connais pas un économiste dans le monde qui ne prône pas la taxe carbone pour basculer, pour faire cette transition énergétique.
Alors moi, je vous propose la taxe carbone sur les importations lointaines. Parce que l'essentiel de notre...
Oui, mais ça en fait partie.
Ça en fait partie, mais l'essentiel de notre CO2, c'est celui qu'on achète aux autres et dont on se débarrasse. C'est les importations chinoises. C'est presque une taxe kilométrique, sur les importations lointaines. Et ça fait partie de mon projet.
Dans votre projet, il y a ce projet du Made in France XXL avec la résurrection des fleurons perdus de l'industrie française. Mais vous appelez surtout à ce qu'on mette hors d'état de nuire Emmanuel Macron, qui est selon vous l'homme qui a détruit le Made in France.
Ben écoutez, le bilan est quand même là, est quand même terrible. Alstom perdu, Technip sous contrôle américain. Alcatel démantelé par Nokia et vendu à Nokia. Tout ça sont les offres complètes de M. Macron, ministre de l'économie, au président de la République.
C'est lui votre principal adversaire ?
Bah non, moi, mon sujet, c'est l'amour de la France. Et là, la France a été défaite. À chaque fois, c'est un coup de poignard dans le cœur national. Lafarge, sous contrôle suisse. Et le démantèlement a commencé. Suez, alors là, c'est la prise de contrôle par Veolia, mais avec la complicité du pouvoir. Et la destruction de Suez. Engie, qui est quand même Gaz de France, coupé en morceaux par M. Clamadieu, ami du pouvoir. Et heureusement qu'il y a eu des syndicats à EDF pour éviter le démantèlement d'EDF. Et puis là, le dernier exploit, c'est quand même la négociation par le gouvernement français avec le gouvernement allemand du déménagement de la fabrication de nos moteurs de poussée 18 tonnes pour Ariane en Bavière. Alors donc, maintenant, on déménage le Made in France en Allemagne, comme s'ils en avaient besoin.
Emmanuel Macron, qui selon vous ne veut pas dire qu'il est candidat, mais qui distribue des chèques aux Français comme on distribue un tract électoral. Vous parlez de ce fameux chèque de 100 euros indemnitaire inflation. Vous songez toujours à porter plainte auprès des autorités de contrôle pour abus des finances publiques utilisés à des fins électorales ?
Bah, écoutez, Monsieur Castex, pompe pour une personne qui fait 10 000 km par an, c'est à peu près la moyenne des automobilistes, pompe 2 400 euros de taxes sur chaque automobiliste. Et il va faire un chèque.
Rien, c'est le budget de l'État, Arnaud Montebourg.
Je ne vous dis pas le contraire.
C'est bien
il
commun.
Pompe par une taxe sur une taxe, parce qu'il y a une taxe carbone, puis une TVA de 20% sur la taxe carbone.
Oui.
On a fait la TVA 5,5 pour aider les restaurateurs. On pourrait imaginer, dans cette période où l'énergie est un bien de première nécessité, où les Français n'ont pas d'autre solution, d'imaginer une TVA 5,5 pour aider les Français. Mais
est-ce que je peux vous faire remarquer, quand vous étiez ministre de l'économie en 2012, que l'essence valait plus cher qu'elle est aujourd'hui, vous n'avez jamais songé à une baisse de la fiscalité sur le pétrole.
Mais c'est inéluctable que quand les Français n'arrivent pas, les Français ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat entre-temps. Et vous le savez bien, les 56%...
C'est ce que disent les statistiques.
C'est ce que disent les Français. Ils disent, moi, mon pouvoir d'achat a baissé. Et par ailleurs, quand on met bout à bout les augmentations sur le gaz, l'électricité, l'énergie, l'essence, on arrive à des situations très difficiles. 36% des Français déclarent des difficultés financières. Donc ma proposition est de dire, quand on pompe 2 400 euros sur un an, tout de suite, et qu'on redistribue 100 euros à la veille des élections, il y a un petit problème. Donc je demanderai la réintégration dans les comptes de campagne du chèque qui sera distribué, car M. Castex a dit que ce serait distribué en février, c'est-à-dire quasiment un mois avant les élections.
Donc, il ne fallait rien faire.
Non, il pourrait le faire maintenant.
L'État se met en hibernation, quoi, jusque pendant une période électorale.
Je vous rappelle qu'en Angleterre, il y a une disposition qui est interdite.
Ça va commencer à partir du mois de décembre, ça s'étale jusqu'en février.
Il y a une disposition qui est interdite en période électorale d'utiliser l'argent public à des fins électorales. Et d'ailleurs,
donc
tous
on laisse les Français voir leur pouvoir d'achat fondre.
Tous les jours, le gouvernement fait la paye des fonctionnaires. Et il n'est pas capable d'envoyer son chèque de 100 euros maintenant. Il attend février. Il dit, on fera tout notre possible pour que ce soit le plus tôt possible. Et jusqu'en février. Mais les fonctionnaires, ils reçoivent de l'argent de l'État. Les fonctionnaires sont dans le cas. Donc il y a un petit problème quand même éthique. Voilà.
Vous avez...
Non mais honnêtement, oui.
Il y a un petit problème de cohérence à prôner, comme vous l'avez fait, la transition énergétique et à demander une baisse de la fiscalité sur les carburants.
Mais parce que les Français... Écoutez, Monsieur Cohen, les Français sont pendus financièrement. Est-ce qu'on peut le comprendre, ça ?
Donc,
tous les jours, vous voyez,
quand
vous devriez venir avec moi, Monsieur Cohen, au prochain stand-up que je fais. Je vais à Château-d'Avenay avec moi. Vous allez voir comment les gens
parlent. Je ne vous aurais pas fait la remarque si vous n'aviez pas fait le...
Je vous ai dit
la transition énergétique était inévitable.
Entre-temps, le salaire des fonctionnaires a été gelé pendant 11 ans. Les pouvoirs d'achat des Français a décliné dangereusement. Et aujourd'hui, vous avez des situations extrêmement difficiles. Les Français n'y arrivent pas. Et ils sont obligés d'utiliser leur voiture. Donc, est-ce qu'un gouvernement humain peut prendre une décision humaine.
C'est pas humain de donner un chèque de 100 euros. C'est juste électoraliste.
Bah, dans 3 mois.
Non, ça va commencer avant 3 mois.
Non, mais
ça
d'accord,
va
dans 3 mois, juste avant les élections.
Non, mais c'est pas humain de faire ça.
Je rappelle juste que si on baissait la TVA à 5,5, c'est 23 centimes par litre.
Et ça concernerait l'ensemble des Français, y compris les plus favorisés.
On l'a déjà fait dans des circonstances difficiles et je pense qu'on est dans cette situation difficile.
Juste un mot sur votre situation.
Je sais, le gouvernement a besoin d'être défendu, vous le faites très bien. Non, mais permettez-moi d'avoir une position divergente.
Ben justement, on vous demande de bien exposer votre position divergente. La remontada dans les sondages, c'est pour quand, Arnaud Montebourg? Vous êtes crédité de 3 à 4 % des intentions de vote.
Ben, c'est pas si mal. J'ai commencé à zéro.
Ça ne suffira pas pour aller au second tour. Hein,
mais c'est dans 6 mois. Entre-temps, il va se passer beaucoup de choses.
C'est vrai.
Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a décidé Ouest France, vos confrères de Ouest France. Ils ont dit, nous, on arrête de parler des sondages.
Vous ne les regardez pas, les sondages. Même ceux qui se... Alors, vous lisez que Ouest France.
Non, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que Ouest France dit... nous ne voulons plus commenter les sondages, parce que pendant que je parle de ça, je ne peux pas parler de mon projet, puisqu'on fait des commentaires sur des échantillons de personnes qui ont dit on ne sait pas, parce que l'essentiel, la majorité des Français, ne savent pas pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent connaître les projets. Donc on en reparlera au fameux mois de février.
Il y a un Français qui sait, qui s'exprime et qui a qualifié la semaine dernière toutes les candidatures à gauche de lilliputiennes qui se livrent à des batailles picrocolines. C'est François Hollande qui, à votre propos, dans son dernier livre, vous qualifie de Zorro de la politique qui passerait pour un zozo devant le Conseil européen. Il a réitéré ses critiques à votre égard ici même mercredi dernier.
Arnaud Montebourg, que j'ai bien connu, il était membre d'un gouvernement et qui en est encore, lui aussi, à dire qu'il va arriver au Conseil européen et leur demander maintenant de céder sur toutes les règles qui font l'Union européenne. Il en est même arrivé à être d'accord avec les positions polonaises sur la suprématie du droit national par rapport au droit européen, alors que c'est le fondement même de l'Union européenne.
Donc il ferait mieux de s'abstenir.
Eh bien, vous avez raison.
C'est
sérieux. Pas sérieux s'abstenir.
Pas sérieux s'abstenir. Histoire de passer mes tiens un peu plus la gauche.
Je voudrais peut-être dire une chose. Ma candidature est liée au fait que 4 quinquennats ont négligé, ça fait 20 ans maintenant, ont négligé les classes populaires et classes moyennes, qui se sont retrouvées toujours, finalement, les victimes des politiques qui ont été menées, y compris celles menées par le président de la République, dont j'étais l'un des ministres, et je suis parti sur un désaccord très lourd, car j'ai demandé à une tribune, comme ministre de l'économie, l'inflexion de la politique économique. Je ne pense pas que ce soit une décision banale de la part d'un ministre de l'économie, je préfère le rappeler. Et donc, François Hollande n'a pas fait exception par rapport à l'ensemble de ses prédécesseurs ou de son successeur. Finalement, abandon des ouvriers de Florange, abandon des salariés d'Alstom, matraquage fiscal sur les classes moyennes et classes populaires. Je me souviens avoir même dit un jour, dans le salon vert de l'Élysée, il y a des gens à la trésorerie de Louhans, des sympathisants qui votent pour nous, qui nous ont dit, des veuves, des gens modestes, qui ont travaillé toute leur vie, retraités, qui pleurent, qui pleuraient physiquement, disant « on ne peut pas payer les impôts que vous nous infligez ». Ça, c'est François Hollande. D'ailleurs, pourquoi ne s'est-il pas représenté ? Parce qu'il était tombé très bas dans les sondages de l'époque qui testait une éventuelle candidature. Pour un président sortant, c'était impossible. Et par ailleurs, les reproches qui me sont faits par François Hollande, ce sont des reproches, j'allais dire, de choix d'orientation politique. Je ne soutiens pas la Pologne, je ne soutiens pas le gouvernement réactionnaire et clérical de Pologne. Mais je comprends que le gouvernement allemand ou le tribunal constitutionnel de Karlsruhe fait prévaloir la Constitution sur le droit européen, et c'est exactement ce que je veux faire. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Union européenne, qui ne marche pas sur les grands sujets mondiaux, nous protéger des GAFAM, nous protéger contre la puissance industrielle chinoise, nous protéger contre la menace climatique... L'Union européenne passe sa vie à faire intrusion dans la vie domestique des nations.
Donc vous voulez en sortir, c'est ce que dit François Hollande.
Un Frexit, quoi.
Pas du tout.
C'est une forme de... Quand on s'affranchit des règles communes au sein d'un groupe, ça veut dire qu'on en sort.
Pas du tout. Ça, c'est l'interprétation maximaliste de ceux qui veulent faire peur. Mais moi, je voudrais que nous entendions raison. Les Allemands ont pris la décision semblable. Ils ont dit... Désolé, mais la Constitution, en matière monétaire, nous interdit de prendre telle ou telle décision. Mais moi, je propose,
ça ne s'est pas appliqué en Allemagne.
D'une certaine manière, ça va s'appliquer, parce que cette décision, elle est constante de la part des Allemands. Et moi, je propose que nous fassions exactement la même chose que les Allemands, pas plus, mais pas moins, et que nous défendions nos intérêts. Par exemple, vous trouvez normal que la Cour de justice de l'Union européenne décide qu'il faudrait mettre les armées aux 35 heures. C'est complètement absurde. Mais délire. Alors on fait la guerre, 35 heures, on s'arrête. Mais c'est la réalité, c'est factuel. Est-ce que vous savez qu'ils nous demandent de démanteler nos barrages ? Nous avons construit avec notre sueur ces barrages, c'est les nôtres. Quand on a sauvé Air France KLM, ils nous ont dit, vous avez le droit de mettre 7 milliards sur la table, 7 milliards quand même, c'est pas une obole. Mais à la condition que vous donniez les créneaux de décollage et d'atterrissage d'Orly aux compagnies concurrentes low-cost anglo-saxonnes. Donc on a le droit de sauver Air France, mais on lui rogne les ailes, etc., etc. Je ne vous parle même pas du démantèlement d'EDF qui est programmé par l'Union européenne. Donc quand l'intérêt national vital de la nation sera en jeu, la Constitution prévoira que le législateur pourra dire non. Non.
Pierre.
On peut dire que vous n'êtes pas tendre avec quasiment tous les autres candidats plutôt à gauche. Pour Anne Hidalgo, vous avez dit que le doublement du salaire des enseignants, ça ne marcherait pas. Pour la réduction du temps de travail à 32 heures, on en parlait tout à l'heure, et par semaine, ce serait une erreur. Vous dites même que ce serait le nouvel ennemi de la feuille de paye. Quant à Jean-Luc Mélenchon, vous affirmez qu'il ne peut pas gagner car sa proposition est excessivement radicale et sectaire, ce qui a amené l'un des lieutenants de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, à vous lancer un appel.
Ce que je veux dire, cher Arnaud, puisque tu m'écoutes et je t'aime beaucoup, c'est que tu peux pas en permanence perdre du temps dans tes interviews à taper sur Jean-Luc Mélenchon comme il le fait, alors en donnant l'impression qu'il y aurait un problème Mélenchon, alors que Arnaud, le problème que tu as aussi, c'est que t'es pas toujours très franc du collier. Et les gens le savent, parce que c'est grâce à toi on a eu François Hollande, on a eu Manuel Valls, et on a eu à l'arrivée aussi Monsieur Macron.
Est-ce que vous serez capable, vous, d'unir les forces de gauche ?
Écoutez, mon camp, c'est la France. Donc unir les forces de gauche, moi je considère aujourd'hui que le sujet, ce n'est pas la gauche. D'ailleurs, si un seul candidat de gauche était candidat aujourd'hui, il ne ferait pas plus de 12%. Pourquoi ? Parce qu'il y a des désaccords profonds entre les candidats de gauche. Vous avez évoqué des désaccords. Moi je m'adresse à une proposition de nature patriotique et réalisable.
Donc il n'y a plus de gauche quoi.
Oui. Ben, en tout cas, elle n'est pas unifiable. Elle n'est pas unifiable en l'État. En l'État ! Je crois, et je l'ai répété, Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité considérable. Parce que...
Vous êtes d'accord avec François Hollande sur ce point,
hein. Il a une responsabilité considérable parce qu'il aurait pu dire « Bon, bah, j'ai pas réussi, essayons de voir ce qu'on peut faire. » J'ai des points, par exemple, communs avec Fabien Roussel. Je veux la nationalisation des autoroutes comme lui. Je veux l'augmentation des salaires sur les petits salaires.
Vous pourriez faire une alliance avec Fabien Roussel.
L'augmentation du SMIC importante de 10%. Comme lui.
Du Parti communiste français.
Et d'ailleurs, j'ai défendu l'idée d'une sorte de CNR, Conseil national de la résistance pour les temps actuels. Nous sommes en urgence aujourd'hui. Urgence sociale, économique, urgence climatique, urgence républicaine, avec des divisions qui travaillent la société de façon tout à fait dangereuse. Donc des gaullistes aux communistes. Il y a là une solution politique. Et donc, le débat va se mener. Et puis, nous verrons bien qui restera encore là le moment venu. Donc moi, je défends ce projet de remontada parce que c'est un projet qui, en effet, intéresse beaucoup de Français très différents.
Vous avez fait le calcul, la somme des candidats de gauche, moins de 12%, donc pas de gauche au second tour. Et dimanche, sur BFM TV, quand on vous a demandé qui vous pourriez choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous n'avez pas pu répondre à cette question.
Mais ce n'est pas que je n'ai pas pu, je n'ai pas voulu, Madame Lemoine. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas me laisser enfermer dans le second tour que vous choisissez.
Ah, on va déjà faire...
Vous venez de le choisir.
Vous venez de me faire le calcul des candidats à gauche.
Je vous parle du premier tour. Alors on va déjà faire... Madame Lemoine, avec tout le respect que je vous dois, on va faire d'abord le premier tour, puis après on fera le deuxième. Vous me réinviterez pour le deuxième.
Bah,
surtout si j'y suis.
Et vous me direz éventuellement si vous n'y êtes pas, si vous choisissez Emmanuel Macron.
À ce moment-là, on en reparlera, mais pour l'instant, c'est le premier.
OK. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Le président Bolsonaro censuré de YouTube.
On l'appelle le Donald Trump sud-américain. Après Facebook, YouTube a décidé de sévir contre Jair Bolsonaro dans sa vidéo hebdomadaire de jeudi dernier postée sur plusieurs réseaux sociaux. Le président brésilien a encore une fois déversé plusieurs fake news.
Presidente Jair Bolsonaro, que propagou mais uma fake news associando a vacina contra a Covid-19 com o risco de contrair AIDS.
Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto.
Évidemment, tout ce qu'il dit est complètement faux. Le gouvernement britannique a démenti aussi sec auprès de l'AFP cette déclaration. Dans la foulée, YouTube a décidé de suspendre son compte pendant une semaine. Justine Rist, la directrice de YouTube France, explique les raisons de cette décision forte.
Nos règles de communauté, elles sont publiques, elles sont strictement appliquées. D'abord à tous les contenus, qu'ils soient vidéos ou commentaires, mais ensuite à tous les utilisateurs, que ce soit un chef d'État ou un créateur émergent. Si vous postez une vidéo qui enfreint nos règles d'usage, vous avez un premier avertissement qui vous suspend votre chaîne pendant une semaine. Si vous recommencez, vous avez un deuxième avertissement qui vous suspend pendant 15 jours. Si vous réitérez une troisième fois, là vous avez une suspension définitive de votre chaîne. Et encore une fois, cette règle, elle est la même pour tous.
Pendant 7 jours, les 3 500 000 abonnés du président brésilien ne pourront plus voir ses vidéos. YouTube a décidé de lancer une campagne mondiale contre les fake news et la désinformation. Durant la pandémie du Covid, le site américain a supprimé 1 500 000 vidéos complotistes. YouTube veut respecter la règle des 4 R. Retirer les fausses informations, relayer les sources fiables, réduire les recommandations de vidéos qui sont certes légales en raison de la liberté d'expression, mais sensibles, et récompenser les contenus instructifs. Alors, comment traiter les vidéos dites sensibles ? Dernier exemple en date, un polémiste déclare dans les médias que le maréchal Pétain et Vichy ont sauvé des enfants juifs français.
Lorsqu'on est dans ce cas de figure, ce qui va se passer, c'est que YouTube va vous proposer un corpus de vidéos afférents, complémentaires à ce sujet-là, mais vraiment voilà, différentes. Et vous allez voir, par exemple, une vidéo de C'est à vous, si C'est à vous à traiter le sujet, du Parisien, du Figaro, de Hugo Décrypte, qui vont venir compléter par d'autres perspectives ce point de vue-là, de ce polémiste-là.
Évidemment, Vichy n'a pas sauvé d'enfants juifs pendant la guerre. La police française a d'ailleurs participé à la déportation de familles juives pendant cette période. YouTube compte bien garder la même attitude pendant la campagne présidentielle, ne pas laisser diffuser les fake news qui pourraient être prononcées par des candidats sur la plateforme. Arnaud Montebourg, vous qui vantez souvent l'indépendance française, vous avez une chaîne sur YouTube, sur un média privé américain. Vous avez 807 abonnés, plus d'abonnés que Yannick Jadot.
Depuis la semaine dernière, on a commencé.
C'est vrai, voilà. Plus d'abonnés que Yannick Jadot, ça c'est vrai, beaucoup plus que Yannick Jadot, mais beaucoup moins que Jean-Frédéric Poisson, qui a plus de 20 000 abonnés. Sur votre chaîne, vous racontez les étapes de la campagne, mais aussi vos rencontres avec les Français.
J'ai constaté le mécontentement sur le terrain, ils veulent du renfort. J'ai entendu une infirmière dire qu'elle s'occupait la nuit de 36 malades toutes seules.
Après la blessure dans le cœur de Belfort, qui a été la vente d'Alstom à General Electric, il faut remonter un nouvel Alstom dans les énergies décarbonées.
C'est extraordinaire ce qu'on pourrait faire avec la politique. On pourrait changer le pays, on pourrait même changer un morceau du monde. Peut-être pas le monde, mais un morceau du monde.
On verra si on va changer un morceau du monde. En tout cas, Arnaud Montebourg, est-ce le rôle d'une firme américaine qui appartient à Google de censurer des gouvernements démocratiquement élus ou pour ce qui est des candidats de déterminer ce qui est vrai ou faux ?
Normalement, non. Mais la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux mérite qu'il y ait ce qu'on appelle une régulation, qu'on fixe des règles. À partir du moment où les règles ne sont pas fixées par la puissance publique, eh bien, ce sont les opérateurs privés qui décident de leurs propres règles, ce qui, elles, n'ont aucune légitimité.
Qui pourrait décider de vous censurer, Arnaud Montebourg ?
J'y suis prêt, Madame Lemoine. Et j'y suis malheureusement habitué.
YouTube.
Il ferait le malheur de vos 807
enfin, vous
abonnés.
Vous savez, mes 807 abonnés ne souffriront pas trop longtemps.
On évoquait Éric Zemmour, parce que c'est lui le polémiste qui était évoqué dans la chronique de Mohamed. Vous estimez que c'est une créature inventée par Emmanuel Macron, une plante que le président arrose tous les matins. On se souvient que c'est un reproche qui avait été fait à François Mitterrand, qui était soupçonné d'avoir laissé Jean-Marie Le Pen et le Front National s'épanouir en France.
Mais vous avez vu le garde des Sceaux engager les poursuites, comme la loi le lui permet, la morale l'exigerait. Il ne l'a pas fait. Où est-ce qu'il y a des poursuites ?
Ça suffit à dire que Macron a créé Zemmour.
Mais une forme de complaisance, de complicité
c'est
même.
C'est pas tout à fait pareil que d'expliquer que c'est une créature inventée.
C'est une créature au sens où il y a une douce tolérance du pouvoir et même une forme de deal avec les propriétaires des télévisions dans lesquelles, finalement, il y a eu une sorte d'émergence. C'est ça fait combien d'années que ça dure ?
De quoi?
C'est News. Ça fait combien d'années que ça dure?
C'est News, ça fait 4 ans.
Non, mais la présence de M. Zemmour, où il n'avait presque pas de contradicteur, il était tout seul, à une heure de grande écoute.
Et vous pensez que c'est télécommandé depuis l'Elysée?
C'est une chaîne privée, c'est News.
Il y a un CSA. Que fait le CSA? Vous avez remarqué, le CSA qui est toujours prompt.
Qui a décidé de décompter le temps de parole d'un polémiste qui n'est pas encore candidat.
Je vois que vous défendez bien le CSA. Moi, je ne le défendrai pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois que le pouvoir demande quelque chose, le CSA est toujours au rendez-vous. Mais là, comme par hasard, on a laissé faire. Donc pour moi, il y a des éléments de complicité, de tolérance, de presque, j'allais dire, de complaisance. Voilà. Et pour moi, c'est extrêmement préoccupant.
Quelle loi ou quelle règle pourrait utiliser le CSA pour faire cesser ce que vous dénoncez?
J'ai entendu le garde des Sceaux dire qu'il avait des propos racistes. Bah alors, c'est prévu et réprimé par la loi. Où est la procédure?
Vous pouvez porter plainte.
Mais il y en a tous les jours.
Chacun peut porter plainte.
Non, mais est-ce que le gouvernement...
Vous-même, vous allez porter plainte? Vous voulez porter
plainte? Je n'ai pas d'intérêt à agir. Celui qui est le gardien de la société, c'est le procureur de la République qui peut recevoir des instructions du ministre de la Justice.
C'est à ça du complotisme, quand même, d'imaginer qu'Éric Zemmour ait piloté, imaginé...
J'en suis bien désolé, mais je considère qu'il y a là comme une sorte de, comment dire, de sauvetage inespéré pour M. Macron, qui est face à une réélection extrêmement difficile et qui a besoin d'effrayer une partie de l'électorat pour qu'un grand nombre d'électeurs se jettent dans ses bras.
C'est sans compter sur votre remontada, Arnaud Montebourg. Il faut vous faire un peu plus confiance.
Merci, Madame Lemoine, de m'encourager. Je reviendrai parler des sondages.
Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci, Mohamed. Merci, ma question, c'est...
Bonsoir.
Salut Mathieu.
Bonsoir à toutes et à tous.
Les chasses traditionnelles d'oiseaux suspendues par le Conseil d'État.
Oui, le gouvernement les avait autorisées par décret. Il se voit retoqué. Le juge des référés du Conseil d'État a été saisi en urgence par des associations de défense de la nature.
Victoire pour les défenseurs des animaux concernant les chasses traditionnelles.
Le Conseil d'État a décidé de suspendre les derniers arrêtés pris par le gouvernement il y a 10 jours.
Les méthodes de chasse dites traditionnelles avec des filets ou des cages sont suspendues.
En août dernier, cette chasse traditionnelle avait été jugée illégale par la plus haute juridiction du pays.
Le bras de fer entre les chasseurs et les associations de défense des oiseaux va donc se poursuivre.
Le Conseil d'État doit de nouveau se prononcer sur la légalité de ces chasses traditionnelles d'ici quelques mois.
Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg.
Bonsoir.
Président de la Ligue de protection des oiseaux, vous avez saisi le Conseil d'État. Quelle pratique exactement est-ce que le juge suspend?
Ce qu'on appelle improprement du reste les chasses traditionnelles. Il s'agit finalement de piéger des animaux de façon que j'estime coupable, maltraitante, par exemple, des lacets qui vont étrangler des merles, des grives, des vanneaux en Ardennes, des filets qui vont capturer des filets de 100 mètres de carrés, qui vont capturer des alouettes, des matoles qui sont des pièges qui se rabattent avec lesquels on prenait du reste les ortolans, etc. Alors, ça génère d'une part une maltraitance pour les oiseaux. Incontestablement, j'ai été sur le terrain. J'ai vu comment ça se passait. Et ceux qu'on attrape vivants, on leur tord le cou. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est la tradition. Et puis, il y a quand même aussi, ça affecte des espèces comme l'alouette des champs, qui a perdu 53% de ses populations en une vingtaine d'années. Et on en tue 200 000 au fusil et on veut en rajouter 100 000 piégés.
Alors précisément, depuis ce matin, et sur les populations d'oiseaux en particulier, on entend les chasseurs, parmi lesquels vous le connaissez, le lobbyiste Thierry Coste. Thierry Coste, écoutez ce qu'il vous répond.
On parle de chasses qui sont limitées sur des territoires particuliers avec une histoire et une tradition. Mais en même temps, les mêmes espèces, les grives qui sont 800 millions ou les alouettes, qui sont un peu moins, on les chasse au fusil tous les jours, aujourd'hui. C'est un jugement sur l'urgence. Le jugement sur le fond, il n'a pas lieu. Donc on a perdu la bataille de l'urgence, on n'a pas perdu la guerre sur le fond.
Alors, ces méthodes, elles vous choquent, mais est-ce qu'elles sont si anecdotiques? Est-ce que vous contestez la chasse de ces oiseaux tout court ou la pratique traditionnelle elle-même?
Ben, c'est la chasse de ces oiseaux, en l'occurrence, avec ce type de pratique. Je ne suis pas opposé à la chasse. J'ai souvent dit que je ne pouvais pas concevoir qu'on retire la vie pour le plaisir. Mais je travaille avec certains chasseurs sur le terrain pour gérer des réserves, pour des plans d'action pour certaines espèces, etc.
En haut lieu. Alors, c'est la biodiversité, c'est le maintien des espèces.
Oui, enfin, c'est rejeté. On est le dernier pays d'Europe à pratiquer ce genre de choses. Ça n'est pas sélectif. En fait, je vais essayer d'être clair. On autorise des dérogations sous quatre raisons. Il faut qu'il y ait des petites quantités. Quand on tire, on piège 100 000 oiseaux, ce n'est pas négligeable. Il faut que ce soit sélectif. Ça ne l'est pas. On prend n'importe quoi. Il faut que ce soit contrôlé. On n'a pas les moyens de faire le contrôle. Et surtout, il faut qu'il n'y ait pas d'autre méthode pour capturer ces oiseaux. Il suffit que l'une des quatre conditions ne soit pas réunie pour que la dérogation soit interdite. Or, on peut tirer, et on ne se prive pas de tirer ces oiseaux au fusil. On n'a donc aucune raison de les capturer dans des conditions qui sont inacceptables. Et je rappelle, on est après Malte, on est le dernier pays d'Europe. On est quand même retoqué par l'Union européenne quand on parle de la glu. C'est nous qui avons été devant la Cour européenne de justice et qui avons obligé, j'en suis désolé, j'aime mon pays, la France, d'obliger la France de suspendre la glu. Le président de la République nous dit « Ah, j'ai arrêté la glu ». Non, c'est l'Europe qui lui a imposé. Ah. Et il s'agit de la même chose avec les chasses traditionnelles.
Donc merci l'Europe.
L'Europe nous tire vers le haut, à tout point de vue, en termes d'environnement, de respect de l'animal, ben bien sûr, alors, mais bien sûr.
Les associations anti-chasse se sont aussi manifestées sur un autre dossier ce week-end. On a appris la mort de l'araignée, c'est le nom de ce cerf emblématique que l'on voit le plus vieux de la forêt de l'Aigle. On est dans l'Oise après la mort de l'équerre, un autre cerf de plus de 10 ans. Les défenseurs des animaux face aux chasseurs, c'est ça, messieurs, d'ailleurs, tous les deux, c'est ça l'enjeu de la présidentielle à venir ? C'est ce qu'on va avoir comme combat ?
L'un des enjeux, oui.
La biodiversité est un sujet de préoccupation. Moi-même, j'ai créé une entreprise dans l'apiculture, Bleu Blanc Ruche, qui a pour but de défendre le repeuplement des cheptels d'abeilles, puisque nous avons des problèmes de destruction et de mortalité, et d'ailleurs de production de miel que nous importons majoritairement maintenant du lointain. Donc la question de la biodiversité, elle est évidemment centrale avec la question de la menace climatique. Donc il est évident que le point d'équilibre, je suis heureux d'entendre M. Bougrain-Dubourg dire « je ne suis pas opposé à la chasse », il faut qu'on arrive à trouver le point d'équilibre entre le respect de la biodiversité qui a besoin de se reconstituer, de respirer, et de revivre, et en même temps, une tradition qui vient de la Révolution française.
Oui, non, mais ça va. Et puis, il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de vote, et il n'y a pas si longtemps, on ne leur autorisait pas à avoir un carnet de chèques, et bien d'autres choses comme ça. Je veux dire que la tradition peut durer un certain temps, et puis peut-être qu'on peut évoluer autrement. Je voudrais juste souligner, au niveau de la biodiversité, vous avez actuellement 17 espèces chassables en France. Sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. C'est-à-dire qu'on a 17 espèces qui sont autorisées à chasser en France alors qu'elles figurent sur une liste rouge. C'est honteux. J'étais à Marseille quand il y a eu le congrès de l'UICN en ouverture et le président de la République a très judicieusement dit qu'il faut rehausser la biodiversité au niveau du climat. Ça signifie avoir une stratégie politique comparable pour la biodiversité à celle du climat. Et par ailleurs, ça signifie mettre de l'argent comme on le fait pour le climat. Rien de tout cela. Tout au contraire, on va maintenir des chasses odieuses. Voilà à quoi on assiste.
Vous restez avec nous, Alain Bougrain-Dubourg. Autre dossier politique dont on va parler pendant la présidentielle, la question du temps de travail.
Et ce soir, la semaine de 32 heures. Des candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel défendent l'idée. Pour Philippe Poutou, c'est même 32 heures maximum. Anne Hidalgo, Yannick Jadot parlent plus largement de réduire le temps de travail. Arnaud Montebourg, à gauche, vous êtes le seul à ne pas le proposer. On va en parler. Mais d'abord, le reportage de Louis Amar et de Camille Schmitt chez LDLC. C'est une société qui vend du matériel informatique, 800 salariés. Le patron nous explique ça, démarre. Pourquoi il a choisi de passer à la semaine de 32 heures ?
Semaine de 5 jours, c'est une semaine où on n'a jamais le temps de rien faire. On commence la journée hors temps de travail. On commence la journée entre les enfants, le travail, la bouffe à faire le soir et autres. Avant 20h, 21h, on n'est pas dispo. Et on vit ça 5 jours de suite. Le samedi, on va faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et on a à peine le dimanche pour se reposer et on recommence. Et c'est un rythme qui devient infernal. Et on a changé le modèle quelque part social et on a augmenté la productivité. Et ça, c'est le truc que les gens ont du mal à comprendre. C'est de se dire, les gens travaillent moins, ils font moins d'heures et pourtant ils sont plus productifs à la fin. Oui, mais parce qu'ils sont reposés. Je pensais que ça allait me coûter 2 ou 3 millions liés aux embauches que j'allais devoir faire. Et 8 mois plus tard, j'ai eu besoin d'embaucher personne. En fait, on a été tellement surpris par l'efficacité de cette semaine de 4 jours qu'on s'est même permis d'augmenter les salaires en moyenne de 6,5%, parce que quelque part, j'avais prévu de dépenser cet argent, je me suis dit, bah, puisque les gens sont plus efficaces aujourd'hui dans ce mode-là, je vais même leur reverser une partie.
Alors évidemment, ça ne va pas beaucoup vous surprendre, passer aux 32 heures sans perdre sur la fiche de paye, ça plaît aux salariés de l'entreprise.
Mieux. On mange aussi plus sainement parce que justement on a le temps de penser à d'autres choses. Après, niveau travail, du coup, vu qu'on est plus reposé, ça nous permet d'être un peu plus performant également.
Alors, j'emmène mes enfants au foot et au tennis. Et je m'occupe d'eux, ce que je ne pouvais pas faire avant. Vu qu'on a un jour, on peut se reposer au milieu de la semaine, à la fin de la semaine, on est à nouveau en forme, et on peut continuer comme en début de semaine. Quoi.
Plein de petites choses qu'on n'avait pas le temps de la semaine, ou que certains services sont fermés le week-end, ou des choses comme ça, qu'on peut faire maintenant. On peut se réserver un jour par semaine pour le faire.
Arnaud Montebourg, vous êtes le seul homme de gauche de cette présidentielle à ne pas défendre la réduction du temps de travail. C'est périmé, ce projet social ?
Non, je crois que votre reportage le montre, sur la base du volontariat, il y a des réussites. Mais en faire une politique uniforme, il faut d'abord se souvenir de ce qui s'est passé sur les 35 heures. Dans mon livre, d'ailleurs, L'engagement, j'avais repris le verbatim de 3 ouvrières de ma circonscription de 3 générations qui travaillaient dans des usines où la productivité avait explosé, les salaires n'avaient pas augmenté et elles incriminaient elles-mêmes les 35 heures parce qu'elles avaient gagné du temps libre, mais elles avaient eu des cadences infernales avec troubles musculo-squelettiques à la clé. Donc les 35 heures se sont soldées comment ? Il faut le dire, ça. Mmh. Elles se sont soldées par flexibilisation maximale, annualisation du temps de travail. Ça, on ne va pas le recommencer si on fait les 32 heures de façon générale. Et surtout, modération salariale. Or, aujourd'hui, les Français, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent des augmentations de salaire pour rattraper toute la perte de pouvoir de vivre et d'achat qui s'est produite. Donc, est-ce qu'on peut faire les deux ? Je pense que certaines entreprises le peuvent parce qu'elles ont une grande profitabilité. Mais certaines entreprises ne le pourront pas. Donc si on décide de le faire pour tout le monde, on va avoir quelques problèmes. Donc ma position est une position de réalisme. L'encourager, mais pourquoi pas ? Moi, dans une de mes entreprises, on a fait le forfait jour à 216 jours, beaucoup plus favorable que la loi. Parce qu'on a décidé de le faire avec les salariés. Mais laissons vivre les entreprises. C'est un peu l'entrepreneur qui vous parle aussi, pas seulement... Le citoyen engagé dans l'action politique.
On termine avec une info beaucoup plus légère, Mathieu. Barbe et moustache ont leurs Jeux Olympiques.
Ah oui, alors, c'était le week-end dernier en Allemagne, un festival de bacchantes, de moustaches à la Dali, de barbe verdie, de mousquetaires, de moustaches freestyle. Ce sont les catégories du concours que je vous cite. Il y avait du poil ce week-end en Bavière, même du poil français avec ce Normand qui a remporté le titre dans la catégorie barbe naturelle de plus de 30 cm.
C'est le nom. Il y a des barbes artificielles aussi.
Barbe naturelle de plus de 30 cm. Ah oui, d'accord. Alors lui travaille dans la métallurgie. Avant la compétition, écoutez-le raconter sa préparation au concours.
Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai un entretien un petit peu particulier en termes de barbe. Donc je la nourris énormément, c'est wax, baume, etc. pour qu'elle soit la plus lisse possible, la plus dense possible. C'est 40 minutes par jour d'entretien. C'est un brushing tous les matins. Il y a quand même un risque, et même malgré tout dans mon métier, oui, je fais très attention. J'évite de m'approcher des machines, j'évite de me mettre en défaut par rapport à cette barbe. Quand on met par exemple une veste qui a une fermeture éclair, voilà, il faut penser que devant, oui, bah, quand vous allez remonter, oui, il faut dégager la barbe avant de remonter à fermeture éclair. Ça a l'air tout bête, mais il faut y penser.
Alors ça, c'est pour le champion, Cocorico. Monsieur Montebourg, vous êtes joueur ?
Un peu.
Ouais, regardez, je me suis dit que pour ceux qui y pensent en se rasant, on vous a fait un look à la Jaurès, ça devrait...
C'est pas mal.
C'est pas mal, non ? C'est un petit cadeau pour avant de partir.
Merci, très sympa.
L'année prochaine, moi, je vous inscris tous au concours, les amis, autour de la table. Regardez, franchement... Je pense que toute l'équipe de C'est à vous est au poil.
Ah, Pierre !
Ah oui, bah bête aussi, hein, je tiens à le souligner.
Attends, j'aurais l'impression d'un mec du 19e
siècle. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Mathieu. Jean-Paul Belmondo représente cette France qu'on aime, à la fois marginale et professionnelle. Séductrice et goguenard, Bébel restera à jamais l'as des as de notre 7e art. Vous vous êtes reconnu, Arnaud Montebourg, c'est le message que vous avez posté le 6 septembre 2021, le jour de l'annonce de la disparition de Jean-Paul Belmondo, auquel était rendu 3 jours plus tard un hommage national.
Là où il est, je suis sûr et certain qu'il sourit, comme toujours, et qu'il est pleinement heureux de cet hommage. Tout au long de sa vie, il n'a cessé de chercher le bonheur, mais surtout de le donner, parce qu'il était et restera un soleil. Et notre grand-père nous irradie, et nous irradiera toujours de son sourire, sa bonté et son extrême bienveillance. Il est un soleil éternel. Merci, papy, de nous avoir donné tant de joie. On t'aime. Et amuse-toi bien avec tes copains qui t'ont tant manqué.
Bonsoir, Victor Belmondo.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir. On va parler d'Albatros. C'est le film de Xavier Beauvois. À voir en salle à partir du 3 novembre prochain. Vous partagez l'affiche avec Jérémy Régnier dans la peau d'un jeune gendarme. On va en parler longuement avec Pierre dans un instant. Merci d'avoir accepté de nous dire quelques mots sur votre grand-père, sur la très vive émotion qui a été suscitée par sa disparition, l'hommage national qui lui a été rendu, une cérémonie qu'il aurait appréciée. Il portait fièrement ses décorations.
Oui, je crois que vraiment, il aurait été très, très content. Je pense qu'il est très content de ce qu'il a vu de là où il est. Il était très fier de toutes ces décorations que je ne saurais vous citer parce que je ne me rappelle pas, mais la Légion d'honneur, etc.
L'Ordre national du mérite, arts et lettres, la Légion d'honneur.
Merci. Et donc, ouais, je crois que c'était important de faire quelque chose à son image. Et
ça l'était.
Le cas, je crois.
C'est vous qui avez parlé au nom du clan Belmondo. On imagine qu'il vous a fallu du cran, mais votre discours, il était solaire à son image.
Ouais, c'est des mots qui venaient du cœur. En tout cas, voilà, c'était au nom de toute la famille. C'est pas seulement moi. Mais ouais, j'ai
c'est vous juste... qui avez été désigné, en tout cas. Enfin,
Les autres ne se sentaient pas forcément de le faire, donc il fallait, il fallait y aller. Et moi, j'étais très heureux de rendre cet hommage-là à mon grand-père. Et donc voilà, on a dit ce qui venait du cœur.
Un grand-père, soleil éternel, qui continue de faire des blagues, y compris ce jour-là. Votre père le raconte, son cercueil s'est retrouvé bloqué dans un ascenseur au lendemain de cet hommage solennel. Et vous a dit, dis donc, papy, tu continues à nous faire des blagues, quoi.
Ouais, en fait, ça n'a pas arrêté. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plein de pitreries. Je pense qu'il ne voulait pas partir sans nous faire rire. Je crois qu'il ne voulait pas partir sans nous faire rire. Et il nous a fait rire vraiment jusqu'au dernier des derniers moments. Sans rentrer dans les détails.
Mais c'est des employés des pompes funèbres qui sont restés coincés dans l'ascenseur. Ils ont dû l'escalader pour en sortir. Se sont de nouveau retrouvés coincés dans le garage. C'est une histoire de dingue.
Non, c'est fou. En fait, nous, on était à la maison et on attendait les pompes funèbres. Et elles n'arrivaient pas. Et on disait, elles n'arrivent pas. Et on attendait. Et on les a vues arriver en sueur, 20 minutes en retard. En nage, disant « mais on a dû sortir par la trappe de l'ascenseur ». Et ouais, ils ont fait une cascade pour venir chercher le cercueil. Je crois qu'il avait envie de retarder l'échéance un peu. Ouais.
C'est vrai qu'il aimait vous montrer ses cascades. Et qu'un jour, il est monté sur le toit de la voiture. Il a demandé à votre papa de démarrer. Et vous êtes parti avec votre père, avec votre grand-père qui était sur le toit de la voiture. Dites-moi que cette histoire est vraie.
Ah, bien sûr, c'est vrai. Moi, mon grand-père, je l'ai rarement vu rentrer dans la voiture. J'ai toujours vu rentrer sur le toit, sur le capot. S'il était dans la voiture, la portière était ouverte. Mais non, c'est vrai.
Ouais. Il adorait les animaux aussi. Hein. Il était extrêmement... Ouais. Proche des associations de protection de la nature et des animaux de la Fondation Bardot, etc.
Toujours. Tous les chiens qu'il a eus, c'est des chiens qu'il a adoptés. Chippy, la dernière, elle vient de la Fondation Bardot, justement. Ouais.
Vous déjeuniez toutes les semaines avec votre grand-père?
Ouais, je le voyais toutes les semaines. Ouais.
Et vous avez pu profiter de sa présence jusqu'au bout? Chaque seconde était précieuse, chaque minute était précieuse.
Chaque minute était précieuse, et puis il a été rayonnant, comme à chaque fois. Ouais, j'ai pu vraiment profiter de lui et voilà, ça reste un soleil, quoi.
On va parler de votre film. On se souvient que vous étiez rayonnant, que vous creviez l'écran dans Envole-moi de Christophe Baratti. On en avait parlé ici à C'est à vous. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de trouver qu'il y a une ressemblance quand même assez incroyable. Et parfois, ça vous arrive. L'espace d'une seconde, vous vous voyez en lui?
C'est compliqué de...
Mais ça, comme ça, furtivement, quoi.
C'est plus dans les films, en fait. C'est plus parfois, quand je vais voir un film où il avait le même âge que moi, où il était jeune, c'est vrai que furtivement, je me dis pas, c'est vrai que je lui ressemble, mais je me dis, ils ont peut-être raison, peut-être qu'il y a un petit truc.
Peut-être pas n'importe quoi. Ouais, vous restez avec nous, cher Victor. On vous garde et on parle longuement avec vous d'Albatros, de Xavier Beauvois. Merci, Arnaud Montebourg, Xavier Dubourg.
Merci.
Alain Bougrain-Dubourg, tout se mélange, merci Mathieu. À tout de suite, Le Vu, l'œil de pierre avec Victor Belmondo, Philippe Etchebès et Matthew McCogney.
Je
crois que c'est pas comme ça que ça se dit. Miss Matthew McAgamy, il est en direct avec nous du Texas. Il pourrait bien être le prochain gouverneur du Texas parce qu'il a des ambitions politiques. Il est en direct avec nous dans un instant. Une star d'Hollywood. À tout de suite.